Bonjour, bonjour à tous, mardi 10 avril 2018. Il fait encore un peu frais dehors, mais je vous l'assure, ça se réchauffe. Et en tout cas, ça se réchauffe dans le studio ce matin, puisque je ne suis pas seul. Nous ne sommes pas deux, nous sommes trois et même quatre, en comptant Jean-Sébastien de l'autre côté de la ville aussi. Bonjour Jean-Charles Algan, comment allez-vous ?
Bonjour Louis, mais ça va très bien, merci beaucoup.
Et nous accueillons également aujourd'hui Jean-François Roy. Bonjour Jean-François.
Bonjour Louis, un petit nouveau.
Un petit nouveau qui va, j'espère, grandir avec nous. Quels sont les sujets aujourd'hui, messieurs Jean-Charles ?
Alors, moi je vais vous parler de voyages avec des visites de villes fantômes. Ensuite, je vais aller voir un petit peu l'immobilier du côté de l'île d'Orléans. Mmh. Et puis, les tendances et consommation, l'actualité alimentaire, le gouvernement entreprend des consultations afin d'aider les Canadiens à faire des choix alimentaires sains.
Intéressant. De votre côté, Jean-François, qu'aurez-vous à nous proposer aujourd'hui?
Eh bien, la légalisation du cannabis s'en vient.
Forcément.
C'est une réalité. On en a beaucoup parlé, mais peut-être un peu moins du point de vue de la formation.
Mmh.
Alors, ce sera le sujet d'un de mes articles. Et puis, c'est le temps des sucres. On veut se gaver un petit peu et à la fois, on fera un petit voyage. C'est donc un nouveau restaurant qui a pris pied à New York. Le plaisir de la cabane à sucre à New York.
Ah, alléchant. De mon côté, des nouvelles insolites, comme d'habitude. Nous parlerons du frigo au bureau, un sujet, un débat intéressant et très sérieux. Également des légumes de l'espace. Et oui, il faut bien qu'ils soient cultivés quelque part. C'est dans un lieu étonnant, vous verrez. Et même pourquoi pas, allons-y, osons, de spermatozoïdes communistes. Vous verrez, c'est dans quelques instants dans les voies de service.
Voyage, voyage. Cinq villes fantômes à découvrir. Certains voyageurs aiment découvrir les musées, d'autres faire des randonnées dans chaque pays qu'ils visitent. Ceux qui choisissent de visiter les villes fantômes sont plus rares. Pourtant, c'est possible de le faire dans de nombreux pays. Voici cinq exemples de villes fantômes qu'on peut visiter. Bodhi, B-O-D-I-E. La ruée vers l'or en Californie a entraîné la création de nombreuses villes dans l'ouest des États-Unis. Attirés par le précieux métal, les prospecteurs ont fait pousser les villes comme des champignons. C'est le cas de Bodhi qui a compté jusqu'à 10 000 habitants et qu'on trouve sur le versant oriental de la Sierra Nevada et à une altitude de 2550 mètres. Deux incendies auront notamment eu raison d'elle. C'est aujourd'hui une authentique ville fantôme d'Amérique nommée National Historic Landmark. On peut visiter une partie de la ville dont l'intérieur des bâtiments ont été laissés tels que lors de son abandon. Une autre ville, Gold Point. Pourquoi ne pas passer une nuit dans une authentique ville fantôme ? Il suffit pour cela de vous rendre à Gold Point, dans le Nevada. Le dépaysement est total et on revient plus de 100 ans en arrière immédiatement. Posez vos valises, par exemple, dans la maison du sénateur Willie, qui comprend deux chambres, une salle à manger, une cuisine et le nécessaire pour se faire à manger. Si vous ne souhaitez pas faire l'expérience de la nuitée à l'ancienne, cette ville fantôme, très bien conservée, se visite également le jour. Direction le nord du Chili. C'est là qu'on trouve en effet une ville abandonnée en plein désert, Humberstone. À l'époque, 1872, on exploitait à Humberstone des mines de nitrate de potassium, une substance qui était utilisée pour l'engrais dans l'agriculture. Cette ressource naturelle a été très importante pour le pays. Mais la découverte du nitrate synthétique et la crise de 1914 a changé la donne et les mines ont fini d'être exploitées. Depuis 2005, les usines de salpêtre de Humberstone font partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a des villes fantômes qui ont un charme si particulier qu'elles méritent qu'on les visite tout autant que les villes habitées. C'est le cas de Graco, un magnifique petit village médiéval totalement désert qu'on trouve au sud de l'Italie, dans la région de Basilicata. Véritable joyau historique. Il a été fondé au 8e siècle et se trouve sur un rocher à plus de 400 mètres d'altitude. Autant dire que la vue y est sublime. Depuis qu'il est devenu fantôme en 1975, le village de Graco est laissé à l'abandon. Le tourisme y est en effet théoriquement interdit, mais il se trouve toujours quelques curieux pour aller visiter quand même ce lieu. Graco attire aussi les tournages de cinéma qui y trouvent un décor naturel des plus singuliers. Et connaissez-vous Hashima, Contrairement à nos précédents exemples, il ne s'agit pas d'une ville, mais d'une île fantôme. Située à une vingtaine de kilomètres de la ville de Nagasaki, elle a été habitée à partir de 1887, une des îles les plus densément peuplées du monde. La raison ? On a fait la découverte d'un gisement houillier très lucratif, mais la baisse de l'activité minière a petit à petit provoqué le départ des habitants de l'île, et l'île a été abandonnée au milieu des années 1970. On l'appelle d'ailleurs l'île fantôme. C'était donc 5 villes fantômes à découvrir.
Et dans les voies de service, nous abordons aussi de temps en temps des sujets de société, des sujets qui fâchent, des sujets sérieux. Accrochez-vous, parce qu'aujourd'hui, nous mettons les pieds dans le plat et nous abordons l'épineuse question de la gestion du frigo au bureau. C'est un article tiré du Soleil. L'histoire d'un plat de riz frit aux crevettes manquant dans un réfrigérateur de bureau a fait beaucoup jaser sur les médias sociaux dans les derniers jours. Et met les projecteurs sur un enjeu souvent ignoré, mais pouvant alimenter, sans mauvais jeu de mots, bon nombre de conflits en milieu de travail. La civilité dans le réfrigérateur. Les interactions liées à la gestion du réfrigérateur dans un bureau, qui est parfois rempli de notes passives-agressives laissées sur les étagères et de restants en décomposition, en disent beaucoup sur le comportement des employés, selon les experts. Oui, il y a des experts pour cette question. Eddie NG, professeur à l'école de gestion Rowe de l'université Dalhousie, croit qu'un réfrigérateur de bureau représente un microcosme du milieu de travail et permet d'en savoir davantage sur les relations interpersonnelles des employés, leur style de communication et leur type de personnalité. Beaucoup plus donc que leur régime alimentaire. Ça peut sembler plutôt banal, mais cela peut se manifester par beaucoup plus que des vols de repas. Cela accentue les personnalités des gens et les attitudes envers leurs collègues, a-t-il souligné en entrevue depuis Halifax. Des internautes ont vivement débattu de ce sujet dans les derniers jours à la suite de la publication d'une série de micro-messages sur un riz frit qui aurait été volé dans un bureau. Zach Toscani, un écrivain et humoriste, a écrit sur Twitter que le repas de son collègue avait été volé. Dans ses messages, il a expliqué avec humour les tenants et aboutissants de l'enquête. Selon son récit, le collègue affamé a demandé à regarder les bandes vidéo de la caméra de sécurité, ce qui a révélé l'identité de la voleuse. Le repas a été dans le réfrigérateur moins d'une heure avant de disparaître, a-t-il écrit, ajoutant que la psychopathe, je cite, n'avait même pas mangé, le riz frit, mais qu'elle l'avait plutôt enterré dans les poubelles. Nous ne savons pas de quoi cette femme est pleinement capable, a-t-il ajouté. Cette série de messages a été plusieurs fois partagée, vous vous en doutez, et a suscité des discussions passionnées sur la toile. Certains internautes ont suggéré de transposer cette histoire dans un film, alors que d'autres ont spéculé sur la possibilité que la voleuse présumée ait agi par vengeance. « C'est fou », a déclaré M. Toscani en entrevue depuis Los Angeles. « C'est devenu une conversation parce que tant de gens se font voler ou jeter leur repas. Des situations comme ça semblent très répandues en milieu de travail. » Andrea Bonior, une psychologue clinicienne et professeure à l'université de Georgetown, souligne que les cuisines en milieu de travail sont le théâtre de plusieurs conflits. Les gens sont dans un espace restreint où la cuisine du bureau a un niveau d'intimité non désiré. On veut plus d'intimité, mais on doit utiliser le réfrigérateur commun, a-t-elle analysé. Madame Bonior, qui anime aussi une plateforme de discussion sur le site du Washington Post, indique que cet espace est propice à des commentaires passifs-agressifs étant donné que l'enjeu de l'alimentation peut être délicat pour certaines personnes qui suivent des diètes ou qui éprouvent d'autres problèmes. On a probablement besoin d'interagir avec les gens pour régler un problème, mais plutôt que d'y faire face, les gens vont souvent laisser des notes, a-t-elle soutenu. Ça amène vraiment des enfantillages dans le milieu de travail. Andrea Bonior a recommandé d'avoir une conversation personnelle, directe et respectueuse lorsque survient un conflit. Aussi drôle que puisse sembler cette histoire en général, il est mieux d'éviter ce genre de drame secret qui risque d'humilier et d'offenser les gens, a-t-elle suggéré, agir en adulte en fait, tout simplement.
mais je suis pris au fond d'une poche de coton.
Et on vient d'entendre Danny Placard, la pièce « Sleeping Bag ».
Profession expert en cannabis, le cégep de l'Outaouais offrira la première formation du genre au Québec dès cet automne. C'est un article qui est paru hier dans le journal Le Devoir, article signé Marie Vastel. La légalisation prochaine de la marijuana risque de faire exploser l'industrie de la production du cannabis, mais aussi la taille de la main-d'œuvre qui devra savoir répondre à la demande de ce nouveau marché récréatif. Les producteurs auront besoin d'experts certifiés en la matière. Le cégep de l'Outaouais propose de les former dès cet automne. Le Collège de Gatineau espère offrir la prochaine session, une attestation d'études collégiales d'un an et demi. Les futurs diplômés seraient certifiés spécialistes en contrôle de la qualité et en transformation du cannabis. Des experts capables de transformer la plante en produits séchés ou en huile ou d'en analyser la teneur en THC. Le gouvernement est sur le point de légaliser le cannabis. Au cégep de l'Outaouais, on s'est dit qu'il faut vraiment encadrer tout ça parce qu'autrement, la recherche de main-d'œuvre va se faire vers des gens qui ont acquis une certaine expérience dans le marché noir ou sur Internet avec des formations bidons. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, explique Mimi Carrier, elle est conseillère pédagogique au collège. La demande de création du nouveau programme a été acheminée au ministère de l'Éducation québécois. Le cégep a bon espoir d'avoir le feu vert et de pouvoir accueillir la première cohorte d'une vingtaine d'étudiants l'automne prochain, car il estime être le seul à se préparer à offrir une formation en transformation de la plante. D'ici quelques années, le cégep de l'Outaouais voudrait même offrir un DEC. À force d'avoir regardé les offres dans d'autres écoles et d'autres régions, on s'est rendu compte que finalement, on axait beaucoup les formations vers la culture, vers le marketing, vers la vente ou comment financer une entreprise. Mais la portion transformation est complètement laissée pour compte, rapporte Mme Carrier. Le programme d'attestation d'études collégiales offrirait des cours de base, en horticulture, pour apprendre aux étudiants notamment à curer les têtes du cannabis. Des cours de biochimie leur enseigneraient à sécher la plante ou la transformer en huile ou en liquide pour vapoteuse. Les cégepiens seraient fabriqués des produits de cannabis pour qu'ils comportent différentes teneurs en THC. Ils apprendraient aussi à en faire l'analyse pour en mesurer la teneur en cannabinoïdes pour y déceler des moisissures et ainsi contrôler la qualité du produit. Des cours de gestion et sciences juridiques seraient aussi prévus pour connaître la loi et les règlements qui encadreront la production de cannabis récréatif. Le profil du diplômé pourrait être varié, selon Mimi Carrier. Un employé de l'industrie de production de la future Société québécoise du cannabis, mais aussi une recrue à la Sûreté du Québec ou à l'Agence des services frontaliers ou encore à l'Institut de santé publique du Québec ou l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Il va y avoir une connaissance assez pointue de toute la transformation. Donc, à partir du moment où ils connaissent, ils peuvent travailler en inspection et en contrôle de qualité. Quant aux enseignants, le collège croit pouvoir compter sur son propre corps professoral. Au besoin, les professeurs pourraient aussi suivre une formation d'appoint chez le producteur hydropothicaire à l'est de Gatineau. Apprendre sans la plante? Le cégep de l'Outaouais s'est associé à l'entreprise hydropothicaire car malgré le fait que le cannabis sera bientôt légalisé, sa production et sa transformation demeureront très réglementées et seulement autorisées chez les producteurs approuvés par Santé Canada. Résultat, le collège ne pourra pas avoir de marijuana entre ses murs. Les étudiants iront donc eux aussi faire un stage d'installation hydropothicaire pour y manipuler directement la plante en laboratoire. C'est sûr que c'est une source de recrutement qui a un potentiel immense, reconnaît André Saint-Cyr, directrice des ressources humaines chez le producteur de cannabis de l'Outaouais. Hydropothicaire a donc accepté de collaborer avec le cégep de la région, car elle sera la première à profiter des formations propres à sa jeune industrie. C'est en croissance majeure, donc les besoins sont immenses, souligne Mme Saint-Cyr, qui verra ses objectifs tripler cette année pour atteindre près de 300 employés fin 2018. Jusqu'à présent, Hydropothicaire a recruté dans les rangs de l'horticulture ou des domaines pharmaceutiques ou de la transformation alimentaire. C'est une plante complexe qui ne peut pas être traitée comme des tomates, note toutefois Mme Carrier. Elle compare la plante à la vigne qui offre différents cépages, comme le cannabis compte diverses souches. La vigne peut en outre produire de l'alcool, tandis que le cannabis présente des effets psychotropes. Mais le parallèle s'arrête là. Si les apprentis sommeliers doivent parfaire leur palais en goûtant des centaines de vins, les apprentis spécialistes en cannabis ne testeront pas leur propre création, assure Mme Carrier. André Saint-Cyr, elle, compte bien tenter de profiter de la première cohorte d'experts en cannabis que lui promet le cégep de l'Outaouais. C'est sûr qu'il y a toujours des particularités propres aux plantes de cannabis, aux procédés spécifiques à notre industrie. Si on peut aller développer ces ressources-là, ça facilite beaucoup l'intégration et à terme, le développement de notre entreprise. Je vous rappelle que c'est un article qui est signé Marie Vastel et c'est tiré du journal Le Devoir, édition d'hier.
Un marché au ralenti. C'est un article en collaboration spéciale dans la presse signé Charles-Édouard Carrier. On visite l'île d'Orléans pour l'agrotourisme, ses paysages uniques au bord du fleuve ou encore son patrimoine religieux. Acheteur potentiel, pourquoi choisirait-on de s'y établir? C'est Jacques Cartier qui, lors de son deuxième voyage en Amérique, baptisa l'île d'Orléans en l'honneur du duc d'Orléans, fils du roi de France François Ier. Considéré comme l'un des premiers foyers de colonisation en Nouvelle-France, l'île de 193 km² comptait 7082 habitants au recensement de 2016. La MRC de l'île d'Orléans, qui est zonée agricole à 95%, est divisée en 6 municipalités. Il s'agit de Saint-François de l'île d'Orléans, Saint-Jean de l'île d'Orléans, Saint-Laurent de l'île d'Orléans, Saint-Pierre de l'île d'Orléans, Sainte-Famille de l'île d'Orléans et Sainte-Pétronille. Ce sont de petites organisations qui fonctionnent avec très peu de personnel, précise Harold Noël, préfet de la MRC. Ce sont tous des comités bénévoles qui prennent en main l'organisation d'activités, loisirs, urbanisme, politique familiale, etc. Cette structure à faible coût, combinée au fait qu'il n'y a pas d'aqueduc dans l'île, permet d'atteindre des taux de taxation significativement bas. Le courtier immobilier Yves Aymon de Remax, référence 2000, couvre le secteur de l'île d'Orléans. J'y suis né, je suis de la 7e génération et j'y habite présentement. En ce moment, j'ai 47 propriétés inscrites à mon nom. Il note une augmentation du nombre de propriétés à vendre et associe cette tendance au vieillissement de la population locale et à la baisse du nombre d'acheteurs. Nous avons perdu une bonne partie des acheteurs américains en 2008 et beaucoup d'acheteurs européens en 2010, explique le courtier. Tout cela est dû au climat économique de leur pays. Ils avaient un pouvoir d'achat très grand grâce au taux de change. Difficile d'établir des moyennes pour le marché de Lille. Il y a une énorme différence au niveau des délais de vente et des prix de vente entre Saint-François à l'est de Lille et Sainte-Pétronille qui est située totalement à l'ouest. Et cela est dû à la proximité du pont entre Lille et la ville de Québec. Les prix moyens demandés présentement à Saint-François se situent à 340 000 $ comparativement à 600 000 $ à Sainte-Pétronille, indique Yves Aymon, courtier immobilier. Les prix peuvent aussi varier selon que l'on soit dans le nord ou le sud de Lille. Le côté sud-est étant le préféré des acheteurs, les bateaux de croisière et autres navires empruntent ce côté du fleuve pour naviguer et la grève offre de belles possibilités pour de longues marches au bord de l'eau. Ce milieu de vie calme et rural n'est qu'à une quinzaine de minutes du centre-ville de Québec. Le seul lien qui relie l'île à la terre ferme est un pont suspendu d'une longueur de 1,7 km. Certains diront que ce seul lien routier que l'on prévoit remplacer en 2024 freine les acheteurs potentiels. Autre point important, l'île d'Orléans est désignée site patrimonial. Par conséquent, la réglementation sur les projets de construction et de rénovation est plutôt sévère. Depuis 5 ans, il se construit moins de 10 maisons par année. Ça ne comble même pas la diminution du nombre d'habitants annuellement, se désole M. Noël. Si on ne change rien, ce sera irréversible. C'est à la fois une question de zonage agricole qui empêche la construction résidentielle et une conséquence des exigences de plus en plus sévères du ministère de la Culture pour rénover. Ça décourage même les enfants de reprendre la maison familiale. Pour sa part, Yves Aymon reste positif. À court terme, on peut penser à une légère augmentation d'inscription. À long terme, d'ici 8 à 10 ans, on devrait retrouver un marché aussi intéressant que celui d'avant 2008. C'était l'île d'Orléans, un marché au ralenti.
Parlons à présent, sans transition, de spermatozoïdes. Mais ne vous y trompez pas, ne rangez pas ce que je vais vous lire dans la catégorie des insolites, quoique, si quand même un peu, mais en tout cas pas dans la catégorie sexologie, mais dans la catégorie politique, car c'est un sujet éminemment politique à Pékin. À Pékin, même, les spermatozoïdes sont priés d'être communistes. Ouvrez les guillemets, être fidèle à la cause du Parti communiste chinois, fermez les guillemets. Cette exigence surprenante est désormais imposée aux donneurs d'une des principales banques du sperme à Pékin, dans un contexte de raidissement idéologique en Chine. L'injonction est mentionnée dans un appel aux dons lancé mercredi par l'hôpital numéro 3 de l'université de Pékin. Cet établissement hospitalier est affilié à la plus prestigieuse école supérieure du pays. Les donneurs potentiels ne doivent pas souffrir de maladies génétiques ou infectieuses et avoir un fond idéologique sain, indique une note publiée par l'hôpital sur les réseaux sociaux WeChat. Les hommes de 20 à 45 ans désireux de donner leur sperme doivent aimer le Parti socialiste, soutenir la gouvernance du Parti socialiste, être fidèles à la cause du parti, faire preuve d'intégrité morale, avoir une bonne conduite, respecter la discipline et les lois et n'avoir aucun problème politique, selon la même source. Après deux tests médicaux destinés à évaluer la qualité de la semence et la santé du donneur, ce dernier sera payé 5500 yuan, soit l'équivalent de 1113 dollars canadiens, indique le communiqué. L'hôpital ne précise pas comment il compte vérifier si les donneurs satisfont aux exigences politiques. Des appels téléphoniques de l'AFP à l'établissement afin de savoir si celles-ci font partie d'une campagne gouvernementale sont restés sans réponse. La Chine ne compte que 23 banques du sperme, beaucoup font face à une pénurie de donneurs. D'autres centres importants de collecte, notamment dans les grandes villes de Shanghai-Est et de Canton, sud du pays, n'impose aucune condition politique. La campagne lancée par l'hôpital pékinois, qui durera jusqu'à fin mai, a été fustigée par plusieurs internautes moqueurs. L'amour pour le parti commence avec un spermatozoïde, a ironisé un commentateur sur le réseau social WeChat. Est-ce qu'ils ont vraiment appris la biologie? Les traits acquis ne se transmettent pas à la descendance, a souligné un autre sur la plateforme de microblog Weibo.
Les Noceurs aiment Montréal. Quels sont les meilleurs restaurants pour sortir en ville au Canada la nuit tombée? Pour les utilisateurs du site OpenTable, plusieurs se trouvent à Montréal. Dans sa liste des 100 meilleurs restos du Canada où sortir en ville, dévoilée la semaine dernière, l'entreprise qui offre un service de réservation en ligne a compilé plus de 550 000 critiques soumises par ses utilisateurs. Montréal fait belle figure avec 21 établissements, dont Brasserie T, Damas, Foxy, Hougen et Beaufort, Le Serpent, Love, Notkins et Portus 360.
Et c'est déjà le temps de prendre une petite pause musicale, mais ne bougez pas, nous revenons dans un instant avec mes collaborateurs pour la suite de cette émission et encore plus d'articles intéressants. A tout de suite.
Yeah.
Toujours à l'écoute des voix de service, on vient d'entendre à l'instant Hubert Lenoir, qu'on a pu découvrir tout d'abord au sein de la formation The Seasons. Il nous revient cette fois-ci avec un album solo, c'était l'extrait Fille de personne numéro 2.
Je remarque que Jean-Charles a une police de caractère suffisamment grosse pour que ce soit confortable pour les yeux. Je prends des notes, les gars.
J'ai quand même mes lunettes aussi. Hein,
oui, l'important, c'est d'être confortable. Je vous invite à voyager un peu et on va sucrer le bec en même temps. Les plaisirs de la cabane à sucre à New York, c'est un article qui est paru dans la presse édition du 3 avril et c'est signé Daphné Cameron. New York. Un ancien garage glauque de Queens transformé en grilladerie fréquentée par les foodies branchés de New York, voilà probablement l'endroit le plus inusité où déguster des oreilles de Chris en écoutant de la musique folklorique. Et pourtant, si le décor du restaurant M. Wells est aux antipodes d'une cabane à sucre traditionnelle, le chef québécois Hugues Dufour et sa femme américaine Sarah O'Bratis ont réussi à en recréer l'ambiance. Des milliers de Québécois visitent New York chaque année lors du long week-end pascal. Pour ceux qui ont déjà exploré Manhattan en long et en large et qui cherchent à sortir des sentiers battus, un pèlerinage au restaurant du Tandem est un bon tremplin pour explorer le borough de Queens, surtout pour les deux prochains dimanches, car le chef est au fourneau pour concocter une dizaine de plats avec du sirop d'érable du Vermont. Situé dans un bâtiment anonyme de Long Island City, le restaurant conquit les critiques culinaires dès son ouverture, il y a 5 ans. En 2016, il s'est même retrouvé sur la liste du New York Times des 10 restaurants dans le monde valant un déplacement en avion. C'est avant tout pour se faire plaisir que le chef originaire d'Allemagne a décidé d'organiser une cabane à sucre « Made in New York ». C'est comme une chose que tu réprimes, mais qui revient à la surface. La cabane à sucre, c'est une partie de moi, a-t-il expliqué lors du premier de ses 4 repas le 18 mars dernier. Gastronomie et hockey. Au menu, une dizaine de plats, dont des bines à l'agneau, du gruau servi avec foie gras, une salade jambon œuf oreille de Chris, du poisson à l'érable, des côtes levées aux épices de Montréal et du poulet frit à l'érable. Une bière à l'érable de la microbrasserie voisine Fifth Hammer a même été créée pour l'occasion. Le tout en formule à partager. Les gens me demandent tout le temps « Qu'est-ce qui est québécois sur ton menu? » Tout. Le menu, c'est moi. Et je suis québécois, souligne le chef. Dans la salle à manger, des New-Yorkais avec leurs jeunes enfants, quelques expatriés québécois, des hipsters, des groupes d'amis dans la trentaine, des habitués du quartier et des fans finis de gastronomie québécoise. L'un d'eux, James Mangold, a mangé à la cabane à sucre au pied de cochon, pas moins de 7 fois. Il voit une filiation entre son expérience au M. Wells et celle de la célèbre cabane du chef Martin Picard, avec qui Hugues Dufour a travaillé de près avant de s'établir à New York. C'est moins l'orgie de nourriture, mais ça s'inscrit dans le même sens, dit le résident de Queens qui a visité toutes les bonnes tables de Montréal. Pour les habitués des grandes attractions touristiques, un saut à Long Island City, l'endroit qui connaît le plus grand boom démographique en Amérique du Nord, peut s'avérer un brin dépaysant. Les tours de condos modernes y côtoient les petits bâtiments déglingués. Les chantiers de construction y poussent comme des champignons. Sarah O'Bratis explique que la cabane à sucre s'inscrit dans le désir du couple de créer un espace rassembleur pour la communauté. Le repas s'est d'ailleurs terminé avec une dégustation de tir d'érable, une étape qui a fasciné les Américains de tous âges, et une partie de hockey-ball afin de digérer le copieux repas. Il faut avoir mal au cœur pour se sentir en vie, a blagué Hugues Dufour. Menu cabane à sucre le 8 avril, à partir de midi, les billets sont à 100 $ américains, bière incluse.
Fréquentation touristique record en France en 2017. La fréquentation touristique en France a atteint un niveau record en 2017 avec 429 millions de nuitées enregistrées, une hausse de 5,6% sur un an favorisée par le retour des touristes français comme étrangers, a annoncé mardi l'INSEE. L'ensemble des hébergements touristiques collectifs, hôtels, campings, villages vacances, etc., ont recensé 23 millions de nuitées supplémentaires l'an dernier par rapport à 2016, pour atteindre un niveau record bien au-delà des fréquentations des années 2011 à 2016, comprises entre 400 et 412 millions de nuitées, souligne l'étude INSEE première. Il s'agit du premier chiffre officiel sur la fréquentation touristique nationale pour 2017. Le gouvernement a déjà évoqué une année record et estime à près de 89 millions le nombre de visiteurs étrangers, mais il n'a pas encore communiqué son chiffre définitif. L'année 2017 fait beaucoup plus que compenser le moindre dynamisme observé en 2015 et 2016, consécutifs notamment aux attentats de novembre 2015 et juillet 2016, souligne l'INSEE. La hausse concerne tous les types d'hébergements et la clientèle résidente, plus 5% de fréquentation, comme non résidente, précise l'Institut de la Statistique. En dépit d'une baisse du nombre de nuitées, les Britanniques restent la première clientèle étrangère des hôtels métropolitains. Les effets du Brexit ne sont pas évidents, estime l'INSEE. Cette moindre fréquentation peut s'expliquer par le succès des autres modes d'hébergement marchand, location auprès des particuliers, ou non marchand, les résidences secondaires, visite à la famille ou à des amis. Les Américains arrivent en deuxième position avec un nouveau record de 8,7 millions de nuitées. Un bond de 16% en un an. Après une année 2016 en retrait, la clientèle chinoise est de retour avec une fréquentation qui s'envole de 19,2%. À l'instar de la clientèle chinoise, la clientèle en provenance du Proche-Orient et du Moyen-Orient se distingue par un très fort pouvoir d'achat et est toujours plus nombreuse. Plus 6,8% de nuitées en un an et un doublement du nombre de nuitées entre 2010 et 2017, selon l'INSEE. Pour leur part, les Japonais, très sensibles au contexte sécuritaire, ont fait leur retour dans l'Hexagone, mais leur niveau de fréquentation, 1,3 million de nuitées, reste très inférieur à celui de la période 2010-2014. Par catégorie d'hébergement, l'hôtellerie à elle seule, qui avait beaucoup souffert de la désaffection des touristes étrangers en lien avec les attentats, voit sa fréquentation progresser de 4,9%. La hausse du taux d'occupation est particulièrement forte dans le haut de gamme, avec respectivement plus 3,8 et 3,5 pour les 4 et 5 étoiles. L'INSEE souligne que si la concurrence entre les plateformes de location entre particuliers type Airbnb existe toujours, elle n'empêche pas les hôtels d'atteindre un niveau record de fréquentation des clientèles étrangères. Le tourisme représente quelque 7% du PIB français. Selon la Banque de France, les recettes touristiques, les montants dépensés dans l'Hexagone par les visiteurs y séjournant pour motifs personnels ou professionnels, se sont élevées à quelque 49 milliards d'euros en 2016. Elles atteindraient les 54 milliards pour 2017, selon un chiffre non définitif de l'institution. Autrement dit, le tourisme se porte bien.
Et je vous emmène à présent en Afghanistan. Nous poursuivons notre tour du monde avec un sujet un peu plus sérieux que d'habitude. Il m'arrive de délaisser les insolites, les excentriques.
Que se passe-t-il ?
Et d'être plus sérieux. Oui, figurez-vous qu'il y a un cœur qui bat derrière ce micro et que je suis parfois émotif et cette histoire m'a ému et je vous en parle. La photographie d'une étudiante afghane passant un examen d'entrée à l'université, assise à même le sol avec son bébé sur les genoux, a fait le tour du web, provoquant une vive émotion en Afghanistan, où nombre de femmes sont illettrées. Sur cette image prise le 16 mars par un professeur de l'université privée Nasir Khusraw, où se déroulait l'examen, Jahantab Ahmadi est assise en tailleur, le visage penché sur sa copie, son enfant contre elle. Le cliché publié sur la page Facebook du professeur fait le tour de la toile sans même qu'elle en soit consciente. De nombreux internautes ont salué la persévérance de la jeune femme. Mes amis au village m'ont dit « Tu as été photographié ». Je leur ai dit « Comment ai-je pu ne pas savoir qu'on me photographiait ?» Et ils m'ont répondu « Tu étais concentré sur l'examen », a-t-elle raconté timide à l'AFP. La jeune femme de 25 ans, mère de 3 enfants déjà, ne veut pas être privée de ses études. Elle qui vient d'un petit village de la province de Dainkondi, où le blé, le maïs et les patates assurent de maigres revenus, elle veut travailler hors de sa maison. « Je veux devenir doctoresse, quelqu'un qui sert les femmes de ma communauté ou de ma société », assure-t-elle. Pour pouvoir passer cet examen d'entrée à la mi-mars, Jahanta Bamadi a d'abord dû marcher 2 heures dans les montagnes. Puis elle a pris les transports en commun, arrivant 9 heures de chaos plus tard dans la capitale provinciale Nili. Au début du test, qui se déroulait en extérieur, elle s'est, comme les autres candidats, assise à un pupitre. Mais sa fille, Kizran, âgée de quelques mois, souffrait d'une oreille et ne cessait de crier. Pour la calmer et ne pas déranger les voisins, Jahantab explique s'être mise à terre derrière un autre candidat. « Je devais me concentrer sur le bébé et passer le test. » L'association de la jeunesse afghane a lancé une campagne de financement en ligne pour Jahantab Ahmadi et a récolté 14 000 $, une fortune, dans un pays où 39% de la population vit dans la pauvreté. Zara Yanaga, une célèbre défenseuse des droits des femmes, a contacté Jahantab Ahmadi et l'a convaincue de venir à Kaboul pour y étudier. Elle l'aide actuellement à entrer dans une université privée de la capitale afghane et héberge la jeune mère, son mari et leurs 3 enfants. « Si elle devait étudier au Dainkondi, ce serait dur pour elle », a expliqué la militante. « Là-bas, le niveau d'éducation est bas, il n'y a pas de résidence universitaire et elle devrait vivre dans une location », poursuit-elle. Et d'assurer « Nous lui trouverons un logement à Kaboul, beaucoup d'amis ici ont promis de l'aider, nous essayons de trouver un travail pour son mari et aussi de lever des fonds pour permettre à ses enfants d'aller à l'école. » Une solution idéale pour Jahantab Ahmadi, dont le but dans la vie était d'être admise à l'université, remarque-t-elle. « Mais du fait de notre pauvreté, je n'ai pas pu me permettre d'étudier pendant 3 ou 4 ans », regrette-t-elle, et regrette celle qui a fini le lycée après son mariage à l'âge de 18 ans. Le taux d'alphabétisation en Afghanistan est parmi les plus bas au monde, environ 36% selon les chiffres officiels, bien moindre encore pour les femmes, dont on ne fera probablement pas partie, en tout cas on l'espère, cette jeune femme.
Les garçons, on se fait une petite beauté?
On vous écoute.
Cure de jouvence, mais pas à tout prix. C'est paru dans le journal Métro, édition du 27 mars, et c'est signé Jessica Dosti. Alors que le marché mondial de l'esthétique médicale ne cesse de croître, il ne faut pas négliger de bien s'informer avant de passer à l'acte. Plusieurs cliniques offrent d'ailleurs une séance d'information personnalisée avant toute intervention. Nous prenons vraiment le temps de bien éclairer le patient pour lui permettre de savoir dans quoi il s'embarque, souligne la docteure Marie-Andrée Leblanc, dont la clinique de médecine esthétique est située à Blainville. L'idée, c'est d'abord d'éduquer le patient. On a adopté une approche très éducative, renchérit Marilyn Gagné. Elle est présidente de la chaîne de clinique esthétique d'Armapur. D'emblée, elle offre une consultation gratuite d'1 heure pour évaluer les besoins et le budget. « Je pense que c'est comme ça qu'on gagne la confiance de la clientèle », estime-t-elle. En partageant l'information, les gens vont penser à nous quand ils auront besoin. Marilyn Gagné insiste, « Il faut impérativement qu'un médecin supervise les opérations. Ce n'est pas un jeu. Même si ce n'est pas nécessairement le médecin qui prodigue tous les soins, il est là pour assurer une supervision médicale. » La femme d'affaires précise d'ailleurs que les injections, en particulier, devraient être faites par un médecin ou par une infirmière très spécialisée. Demandez des références et choisissez une clinique où il y a un médecin reconnu et intègre, recommande Madame Gagné. Tendance. Qu'en est-il des interventions les plus populaires cette année? Les injections restent très en demande, relève la docteure Leblanc. Tout ce qui est botox et agent de comblement. « C'est notre pain et notre beurre », indique-t-elle, ce que confirme le plus récent bilan de l'International Master Course of Aging Science. Une autre technique très à la mode, le remodelage corporel à l'aide d'une procédure élaborée à Harvard, le Cool Sculpting, qui fait fondre le gras par le froid, sans convalescence ni bistouri, explique-t-elle. Du côté des cosmétiques, la marque montréalaise Jouviance vient de lancer son sérum contour plus pour la mâchoire, le cou et le décolleté. Objectif, regalber la peau du bas du visage, parenthèse la zone en Y, qui se relâchait de plus en plus tôt en raison de flexions du cou répétées pour regarder un cellulaire ou une tablette par exemple. Une condition décrite par des chercheurs sous l'appellation TechNeck. En chiffres, après des hausses de 8,2% et 8,3% en 2015 et en 2016 respectivement, le marché mondial de l'esthétique médicale en chirurgique et chirurgicale a poursuivi sa croissance en 2017, soit plus de 8,1% d'après le dernier bilan présenté par l'International Master Course of Aging Science. Si la plupart des zones géographiques, États-Unis, Europe, Amérique latine, affichent une évolution modérée dans le secteur de la médecine esthétique et chirurgicale, l'Asie montre une dynamique spectaculaire avec une croissance de plus de 10%. Les États-Unis représentent quand même toujours le plus grand marché, avec 48% du marché mondial en 2017. En matière de segments de marché, ce sont toujours les produits injectables comprenant la toxine botulique et les autres produits de comblement qui représentent le premier marché en valeur, soit 42%. La croissance de cette filière est estimée à 7,9% par an jusqu'en 2021. En parallèle, les cosméceutiques, autrement dit la cosmétique médicale, devraient connaître une croissance de 8,4% par an soit de 17% du marché mondial. Les équipements à base d'énergie, dans lesquels on trouve des lasers, des radiofréquences, des ultrasons, les dispositifs de remodelage du corps et les dispositifs de santé féminine à base d'énergie, auront également le vent en poupe, avec une croissance annuelle moyenne fixée à 10,9%. C'est un article qui est signé Jessica Dusty du journal Métro du 27 mars.
J'ai déjà parlé du chocolat rose. Aujourd'hui...
Une nouvelle couleur?
Oui, une nouvelle couleur aujourd'hui, le chocolat blond. Du chocolat blanc, c'est bien. C'est Émilie Bilodeau de La Presse qui a publié ça. Dans la presse. Du chocolat blanc, c'est bien, mais du chocolat blanc caramélisé, c'est mieux. Voilà ce que vous diront plusieurs chocolatiers et pâtissiers. Avec le chocolat blanc caramélisé, aussi appelé chocolat blond, Franck Durie-Pavé fabrique des sucettes, des pralinés, des desserts et des barres aux céréales. Mais du chocolat blanc normal, le pâtissier de Fou Dessert en utilise à peine. Je n'ai pas beaucoup de plaisir avec le chocolat blanc. Dans les desserts, je trouve que c'est un ingrédient qui a peu de caractère et qui apporte beaucoup de gras en bouche. Je n'aime pas vraiment ça, dit-il. Comme Franck, beaucoup de pâtissiers trouvent que le chocolat blanc composé de beurre de cacao est particulièrement gras et sucré. À l'inverse, le chocolat noir qui est fait de poudre cacao contient moins de sucre. Quand le chocolat blanc se caramélise, il développe toutefois un éventail de nouvelles saveurs, affirme le pâtissier de l'avenue Laurier-Est. C'est un produit qui est beaucoup plus gourmand, c'est comme une boîte de biscuits dans laquelle on a envie de revenir. Stéphanie Labelle, de la pâtisserie Rhubarbe, préfère aussi la version caramélisée du chocolat blanc. Le chocolat blond a un goût beaucoup plus recherché, beaucoup plus profond. On dirait qu'il goûte le biscuit au beurre. Il a aussi des notes de caramel. Évidemment, c'est vraiment un produit le fun. La pâtissière marie le chocolat blanc caramélisé avec les desserts aux abricots. Sinon, elle prépare des roses, des sables et ou des sablettes contenant du sarrasin grillé. Le chocolat blanc caramélisé est une invention relativement récente qui date de 2006. Frédéric Beau, chef pâtissier chez Valrhona, aurait oublié du chocolat blanc dans un bain-marie. Les erreurs font souvent des bonnes choses. En revenant vers sa cuisinière, il aurait découvert que le chocolat avait pris une teinte dorée et qu'il dégageait des effluves particulièrement appétissants. Valrhona a cependant mis 6 ans avant de commercialiser son Dulce en 2012. Dans un article publié sur le site américain Eater, le géant du chocolat a raconté que jamais un produit n'avait connu autant d'engouement après son lancement. Le Dulce figurerait parmi les 5 produits les plus vendus de la marque. Dans la dernière année, Cacao Berry a également lancé sa version du chocolat blond, le Zephyr Caramel, et Valrhona a sorti un second chocolat blanc caramélisé, l'Aurélis. Le Château Frontenac utilise une grande quantité de chocolat blond, le Dulce de Valrhona et le Zephyr caramélisé de Cacao Berry. En décembre dernier seulement, l'hôtel a utilisé environ 150 kg de cet ingrédient ambré. Les dimanches, Joël Lahon prépare un dessert mélangeant caramel, pacane et chocolat blanc caramélisé servi au brunch. Et le pâtissier en est bien conscient. S'il ose retirer ce dessert du menu, il fera face à un véritable tollé.
Et poursuivons en alimentation, je vous parle de légumes, mais pas n'importe lesquels, des légumes de l'espace. Des scientifiques en poste dans l'Antarctique ont ramassé une première récolte des légumes produits sans terre, sans lumière naturelle et sans pesticides, dans le cadre d'une expérience conçue pour permettre aux astronautes de récolter des aliments frais sur d'autres planètes. Les chercheurs de la station allemande Neumayer 3 ont ramassé 3,6 kg de salades, 18 concombres et 70 radis qui ont poussé à l'intérieur d'une serre sophistiquée pendant qu'il faisait moins 20 degrés Celsius à l'extérieur. Les responsables allemands ont indiqué que les scientifiques espèrent produire entre 4 et 5 kg de fruits et légumes par semaine d'ici le mois de mai. L'énergie de la station provient de génératrices au diesel et d'une turbine éolienne. La NASA avait déjà réussi à faire pousser des légumes feuilles à bord de la Station spatiale internationale, mais le projet allemand vise à produire une variété de légumes qui pourraient être un jour récoltés sur la Lune ou sur Mars. Le mouvement est donc en marche. À quand le premier restaurant étoilé au Michelin extraplanétaire ? Je surveille ça de près. Bientôt la fin de l'émission, mais j'ai encore le temps de régler avec vous une des questions existentielles de la vie. Au billard payant, comment la boule blanche revient-elle ? Je vous éclaire. Eh bien, c'est grâce à un système d'aimant. À l'intérieur de la boule blanche, il y a une couche de fer. Quand la boule tombe dans la poche, le métal enclenche un détecteur magnétique. Elle est ainsi séparée des boules numérotées par l'aimant puissant qui se trouve dans la table. Alors que la boule passe à travers ce détecteur magnétique, un dispositif la fait dévier vers une ouverture située sur le bon côté de la table. Le joueur peut ainsi la récupérer et continuer à jouer. C'est sophistiqué, vous ne le saviez pas, mais maintenant vous le savez.
Une nouvelle couleur, la couleur mousseux anglais. N'en déplaise aux champenois, le mousseux élaboré en Angleterre fait un malheur dans un autre marché, celui de la décoration. Après le rose champagne et les rouges Bourgogne et Bordeaux, l'institut américain Pantone vient d'ajouter le mousseux anglais à sa gamme de couleurs. La couleur English Sparkling a été développée par Pantone en collaboration avec le marchand de vin anglais Laithwaite Wine. Si les vins effervescents anglais sont peu connus au Québec, la production a explosé au cours des dernières années en Angleterre. Ils sont élaborés selon la même méthode et avec les mêmes cépages que les champagnes.
Et c'est la fin de cette émission. Je ne résiste pas à la tentation de faire ce mauvais jeu de mots, mais merci à tous les gens qui font cette émission. Merci à Jean-Charles, Jean-François et Jean-Sébastien.
Merci Louis.
Ah oui, c'est fait, je suis content. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain. Portez-vous bien. Ah.